grand témoin.
Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les dimanches pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin dans ce studio avec moi, Richie Lotulungu Sombola. C'est lui que nous allons vous présenter tout à l'heure. C'est un jeune très dynamique, fondateur d'Action des Jeunes Capables, fondateur de Haine Francophone, fondateur de Communauté Congolaise de l'Inde. Il va nous en parler dans cette émission. Richie, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission.
C'est un plaisir aujourd'hui de participer dans votre émission.
Tout à l'heure, vous avez souri quand j'ai prononcé votre nom. Je l'ai mal fait?
Non, pas du tout. Bien sûr que c'est un nom compliqué. Vous savez, en Inde, les gens, ils ont l'habitude de commencer par N Sombola. Donc, vous avez reçu le coup.
Un peu comme les Français aussi.
Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est tout un problème. C'est un problème. Alors là, vous avez bien prononcé.
Merci, Richie. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de vous. On va vous présenter auprès des auditeurs des radios Capi qui nous suivent en ce moment. Vous êtes initiateur de plusieurs associations.
Bien sûr.
Vous allez nous en parler. Vous nous parlez des motivations, de ce qui vous a poussé à mettre en place toutes ces structures. Mm-hmm. C'est tout à l'heure. Mais avant cela, on va faire... un petit peu en arrière pour parler de vous. Je l'ai dit, vous êtes jeune, très dynamique.
Merci.
25 ans.
Oui, 25 ans.
Vous êtes né à Kinshasa.
Je suis né à Kinshasa.
Quand?
Je suis né à Kinshasa au 30 avril.
Et c'est à Kinshasa où vous avez grandi?
Oui, j'ai grandi à Kinshasa, à Lupin.
Vous avez un diplôme d'état en biochimie?
Oui, j'ai eu mon diplôme d'état en biochimie en 2009. Et puis, je poursuis des ans d'études à l'Université protestante au Congo, dans la faculté des sciences économiques et administratives. Et je suis allé poursuivre en Inde, en politique, philosophie et économie.
Des biochimies en économie, comment vous expliquez cela?
Oui, bien sûr, quelque chose cloche. Parce que je suis né prématuré. C'était une motivation pour moi, je me disais que je devais être médecin. Alors, je disais à chaque fois à ma mère, je disais, je serai médecin, je vais sauver les femmes. Parce que je suis né dans une situation quand même assez compliquée. Alors, j'avais la vision, comme ça, de poursuivre avec la médecine. C'est ainsi que je suis parti en biochimie, bien entendu. J'ai fini en biochimie, je suis parti à l'université, et j'ai commencé en médecine aussi. Et en propédeutique. Et c'était très compliqué pour moi, parce que comme je fais la biochimie, c'était presque la répétition de tout ce qui s'est passé en propédeutique. Alors j'étais comme ça désintéressé parfois. Alors c'est comme ça que je vais me décider finalement de partir pour quelque chose qui pourra m'enseigner quelque chose de nouveau, voilà.
Et vous avez choisi l'économie.
J'ai choisi de partir en économie, voilà, la même année.
Et là vous avez fait juste 2 ans.
J'ai fait 2 ans et je suis parti en Inde, voilà.
Pourquoi?
Je fais 2 ans, je suis parti en Inde parce que j'étais intéressé par un programme qui est le PPE, Philosophie, Politique et Économie. C'est un programme que, je dirais, beaucoup de politiciens ont poursuivi à l'étranger. Alors, j'étais très intéressé à étudier cela, mais c'est vrai que je ne pouvais pas retrouver cela en RDC. C'était ma deuxième option après la médecine. Donc, temporairement, comme ça, je suis parti en économie. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de poursuivre le PPE, je suis parti en Inde. Voilà.
Et là, vous avez une licence en politique, philosophie et économie.
Oui, j'ai une licence en politique, philosophie et économie avec spécialité en sciences politiques.
La politique vous intéresse?
Ça intéresse tout le monde, c'est la vie.
Vous rêvez de devenir politicien un jour?
Je rêve servir la population et je n'exclus pas la politique comme une option. Voilà.
Alors, vous arrivez en Inde, j'imagine, voilà, que c'était votre première fois.
Ah, c'était pas facile.
Dépaysé?
Bien sûr. Bien sûr. Alors, lorsque je suis arrivé en 2011 en Inde, au mois de mars. C'était totalement un autre monde, c'était un monde différent, avec des gens différents aussi, avec une langue totalement différente. Déjà, au niveau de Kinshasa, lorsque nous apprêtions à partir en Inde, nous avions en tête que c'était un pays totalement anglophone. C'est-à-dire que si on apprenait l'anglais, on pourrait facilement se débrouiller. Alors, arrivé sur place, la situation était totalement différente. Les gens, ils parlent beaucoup plus les langues locales, l'hindi, le panjabi, le marathi et autres. Donc, vous vous retrouvez dans un monde où vous êtes totalement
perdu.
Mais je pense que vous avez aussi quelque part des objectifs à atteindre. Donc, vous perdu, bien sûr, mais vous essayez de voir qu'est-ce qu'il faut, bien entendu, mettre en marche comme stratégie et mécanisme pour réaliser son objectif. Voilà.
Mais à l'université, les cours se donnent en anglais?
Les cours se donnent en anglais à l'université.
Et donc, vous arrivez, vous n'avez pas commencé directement à l'université, vous avez pris le temps de vous adapter un peu, d'étudier le milieu?
Lorsque je suis arrivé, je suis parti en Inde avec un visa temporaire d'études parce que je devais trouver une université sur place. Donc, je passais une année en Inde, comme ça, à apprendre l'anglais sur place et puis apprendre les langues locales, à me familiariser, bien sûr, avec, avec les amis, avec l'environnement et autres. Donc, c'est comme ça qu'une année après, je suis parti à l'université. Mais entre-temps, je fais des formations en informatique aussi et en gestion de données.
Sur place, en Inde.
Ouais, sur place, pendant une année, avant d'aller à l'université.
Vous avez été accueilli par la communauté congolaise ?
La communauté congolaise, lorsque je suis arrivé en 2000, je ne sais pas ce que vous voulez dire par communauté.
Si vous dites, Congolais vivants,
si, vous dites, si vous dites communauté dans le sens de dire association de gens avec un bureau administratif, non ?
Non, pas dans
j'ai
ce
été,
sens-là.
Pas dans ce sens-là, non. Bien sûr. Oui, bien sûr, je suis arrivé dans un foyer qui m'a accueilli, un foyer congolais, et je suis parti 3 mois après.
C'est quoi votre plat préféré, Ritu ?
Je mange souvent le pondu au haricot avec le riz et le poisson grillé.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie ?
C'est que je n'aime pas dans la vie, je n'aime pas les actions répétitives, le problème répétitif. J'aime trouver des solutions aux problèmes une fois pour toutes. Voilà. Donc je travaille à fond pour trouver des solutions aux problèmes. Je ne veux pas que ce soit une répétition.
Alors, Ritu, vous arrivez en Inde, vous commencez les cours à quelle université déjà ?
J'étudiais à Amity Université à New Delhi.
C'est une grande université ?
Ah, c'est une très grande université, c'est la première université privée en Inde.
On y retrouve toutes les communautés.
Oui, vous retrouvez, c'est tout un monde. Amity, c'est l'une de rares universités en Inde où vous avez toutes les communautés représentées, les étrangers de presque beaucoup de pays. C'est tout un monde, voilà.
Et après vos études en politique, vous avez travaillé ?
Ouais, après pendant mes études en politique.
Pendant vos études,
pas après mes études, parce que j'ai fini en 2015, j'ai fini au mois de mai. Voilà. Donc j'ai profité comme ça pour être dynamique dans des actions, dans certains travaux. Voilà.
Vous avez donné cours de français.
Bien sûr. Bien sûr. Déjà à la base, je suis un jeune écrivain. Déjà à la base, depuis la RDC, j'ai grandi dans une famille où le papa est professeur d'université. Alors nous avions beaucoup de livres à la maison. Alors le passe-temps favori de mon père, c'est la lecture. Et j'observe cela depuis que je suis enfant. Mon père, lorsqu'il travaille pas, lorsqu'il est à la maison, c'est une journée pédagogique pour lui. Il lit des livres. Alors parfois on quitte la maison à 7h pour aller au cours, on revient à midi, on est retour dans la même position. Donc c'était comme ça, ça nous a influencé. Nous avons eu le goût à la lecture. Mais bon, vous savez, quand vous avez le goût à la lecture, au fur et à mesure que vous lisez, et c'était beaucoup plus de romans que je lisais, vous avez souvent tendance à vous dire que l'histoire est limitée quelque part. C'est ce que ça crée. Parfois, vous lisez jusqu'au bout, vous vous dites, mais écoutez, l'auteur, il devait continuer avec ça. Et c'est comme ça que je veux parfois aussi continuer des histoires qui ne m'appartiennent pas, n'est-ce pas? Et ma mère, en observant cela, c'était tout un talent qui se développait. Elle m'a inscrit au centre Wallonie-Bruxelles. Je travaillais avec certains de gens là-bas pour rédiger de romans et autres. Alors, lorsque je suis arrivé en Inde, justement, je suis allé à l'Alliance française de New Delhi pour chercher une édition. Parce que j'avais déjà des romans depuis Kinshasa. Alors, arrivé sur place, je plutôt observais un autre phénomène. Le phénomène était que vous avez au fur et à mesure des Indiens qui veulent apprendre le français. Ils sont nombreux. Mais il y a un problème. On observe finalement qu'ils sont très forts en orthographe, mais ils sont très pauvres en parler. Alors, je me disais que c'était sûrement un problème d'environnement qui se pose, parce qu'on ne peut développer la langue que lorsqu'on se retrouve justement dans un environnement francophone. Uh-huh. Alors, c'est comme ça que je veux justement devenir professeur de français dans une école à New Delhi, et après créer un francophone. Voilà.
Et le courant passait bien avec vos étudiants, vos élèves ?
Oui, bien sûr. Le courant, vous savez, en Inde, il y a un principe. On dit que, bien sûr que vous savez que l'Inde, c'est un pays polythéiste. On dit que le professeur est un dieu. Donc voilà.
La couleur de sa peau ?
Malgré la couleur de sa peau. Non, je pense que déjà, à titre de professeur, il y a un caractère autoritaire qui s'impose, bien entendu. Donc, vous n'avez pas à faire face à des discriminations, mais plutôt vous êtes respecté comme un petit dieu.
Voilà. Vous n'avez pas souffert de ça, discrimination ? Pas
oui.
Seulement pendant que vous donniez cours, mais même dans votre environnement, à l'université ?
Les discriminations primaires, oui, c'est permanent. On le retrouve partout. Je me rappelle de cette histoire. Je pense que c'est l'une de mes motivations. Je me disais que il faut à tout prix créer un je dirais pas un destin commun, mais qu'il fallait à tout prix harmoniser les relations avec les Indiens. Je me retrouve dans un métro à l'époque. Vous avez des termes comme ça qui vous sont parfois collés à la peau, comme Kalou, Opsi. Bon, ce ne sont pas aussi des injures que ça, parce que Kalou signifie noir, mais au sens de la cité, au sens où c'est prononcé, c'est pour créer une provocation. Alors, je me retrouve dans un métro comme ça, en train d'aller au cours. Alors, je rencontre un petit garçon il doit avoir à peine 3 ans, à 4 ans. Alors, qui m'observe, qui dit, oh, qui dit le métro, il dit, oh, Kalou, Kalou. Alors, c'était à peine 3 mois que j'étais arrivé en Inde, il dit, Kalou. Alors, j'étais tout d'un coup surpris que c'était un jeune enfant. Je me dis, bon, ok, on va pas quand même s'insurger contre un enfant.
Mais ça vous a fait quand même mal.
Oui, quelque part, ça vous interpelle. Ça vous dit, mais écoutez, mais pourquoi un enfant de cet âge peut savoir que le noir, on l'appelle Kalou. Donc, je suis resté dans le métro. C'était un sujet de joie pour lui, parce qu'en fin de compte, le petit court dans le métro, il revient, il me prend par mon pantalon, il dit Kalou, 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 il est très heureux et tout. Je comprends que cet enfant, il comprend pas qu'est-ce qu'il dit, mais donc voilà, ce sont de petites discriminations comme ça, primaires qui arrivent, parfois dans les marchés aussi, mais qui ne sont pas aussi graves que ça. Tel que j'ai toujours dit, vous savez, l'Inde, c'est un pays qui s'est à peine ouvert il y a 15 ans, 10 ans passés. Je pense que les Congolais, 15 ans, 10 ans passés, vous ne les retrouvez pas en masse en Inde. C'est un phénomène qui s'est créé à peine en 2010, 2011. Donc, vous avez des gens qui sont aussi caractérisés par une culture qui ne veut pas s'expandre, qui est la culture indienne, qui veut rester concentrée en Inde. Vous avez la télévision qui ne vous fait passer que des images sur l'Inde, qui ne vous montre pas le monde extérieur. Donc tout ça, ça crée de vide dans les têtes de gens. Alors facilement comme ça, vous retrouvez des gens qui sont âgés, mais qui n'ont jamais rencontré le noir de toute leur vie. Vous savez, ce que ça crée, c'est que ce sont des gens qui, en fin de compte, ne savent pas comment traiter avec vous. Ce sont des gens, en fin de compte, qui ne savent pas comment s'en sortir lorsqu'ils sont dans une situation face à vous. Alors, il y a surprise quelque part et il y a problème de communication aussi quelque part. Voilà.
Alors Richie, avant de vous envoler pour l'Inde,
allez-y.
Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, vous avez fondé une ONG ou je ne sais pas, association Action des Jeunes Capables.
Je fonde Action des Jeunes Capables en 2005. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué, j'ai toujours cru en un principe. Je me dis que les gens vivant dans un territoire doivent être les solutions à leurs propres problèmes. Alors, ce que j'observe à l'époque, c'est que nous vivons là, à Dupin, dans une cité qui, si c'est délabre au fur et à mesure, qui devient sale au fur et à mesure. Nous avons des familles qui vous stockent de tas de égouts devant leur portail. Nous sommes là dans un quartier qui n'est pas électrifié. Alors, vous savez, le rôle d'un gouvernement, c'est de faire pour son peuple, c'est que son peuple n'est pas faire des meilleurs pour lui-même. Je pense pas que s'il y a pas une lampe à Radio Capi, on va aller chercher le gouvernement. Donc, c'est comme ça que je crée Agissez en 2005. C'est une action qui réunit les jeunes dans mon quartier, parce qu'il faut nettoyer les quartiers. Avec le plus diluvienne en 2005, il faut prévoir de puits pour eau, il faut maintenir l'électricité. Donc nous avons comme ça placé de poteaux bambou avec de lampes dans toute la ville.
Vous étiez financé ?
Nous étions financés bien sûr par la communauté, par le membre du quartier. Il y avait une commission que dirigeait ma mère, une commission de maman dans le quartier. Donc nous partions souvent là-bas avec de projets, et nous visitions aussi les familles de porte à porte pour justement leur faire comprendre l'importance de l'action que nous faisions. Et je pense que c'était un grand succès, parce que au bout de 3 à 4 mois, nous sommes parvenus à créer un quartier très propre et qui est électrifié. Voilà.
Est-ce que Action des Jeunes Capables existe jusqu'à aujourd'hui?
Action des Jeunes Capables n'existe plus jusqu'à aujourd'hui, parce que la plupart de ténors sont partis à l'étranger, sont partis faire des études à l'étranger. Je suis rentré.
Vous n'avez pas préparé la relève?
Préparer la relève, oui, bien entendu, parce que après mon départ pour l'Inde, l'association a continué à fonctionner pendant un moment. Mais vous savez, c'est aussi un problème de leadership. Vous savez, vous n'avez pas toujours le la même manière de faire les choses que tout le monde. On sait que Richie, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui sait où est-ce qu'il faut trouver de l'argent pour acheter les lampes et tout. Donc je pense que c'était ça le problème. Alors la solution a cessé d'exister, je pense, 6 mois après mon départ pour l'Inde. Mais je suis rentré, je suis très motivé à relancer cela.
En 2012, Richie, vous fondez End Francophone.
Oui.
C'était pour permettre aux gens qui ont envie d'apprendre la langue française.
Voilà, oui, c'est la même.
De se retrouver.
Bien sûr, c'est la même ambition qui me pousse, parce que je deviens professeur de français, mais encore là, vous vous retrouvez seul devant une classe de 50 à 60 étudiants. C'est aussi difficile d'améliorer, bien entendu, les parler de tous ces gens-là. C'est toujours la même ambition qui me pousse à fonder End Francophone, parce que là, je deviens un professeur de français avec l'objectif d'améliorer justement le parler des étudiants. Donc c'est comme ça que j'ai en fin de compte l'idée. Je me dis pourquoi il ne faut pas créer une sorte de mutuelle, un sorte de club où le francophone peuvent se rencontrer en Inde, et on peut toujours joindre les étudiants comme ça, ils peuvent échanger avec les francophones. Voilà.
Cette structure ou fondation a eu quand même du succès.
Oui, bien sûr. End Francophone a eu quand même du succès. Parce qu'en fin de compte, ce que nous faisions, c'est que nous sommes allés voir les représentants de l'Institut français en Inde. On a dit, écoutez, voilà le projet que nous avons. Si l'ambassade de France, si l'Alliance française, l'Institut français pourrait soutenir cela. Mais nous ne sommes pas, bien sûr que nous étions très bien accueillis, mais nous ne sommes pas allés aussi loin que ça avec eux. Mais on était très motivés, on se disait qu'il fallait à tout prix le faire. Nous avons comme ça joint les écoles. J'étais auparavant aussi membre de Internation, qui est un autre club aussi qui réunit les étrangers qui vivent en Inde. Donc c'est comme ça que je vais intéresser, en fin de compte, je vais intéresser le francophone qui sont Indes francophones. Je leur dis, écoutez, il y a une idée, on doit aider les étudiants. Et ce sont ces gens qui vont inviter leurs camarades, qui vont inviter leurs proches à joindre Indes francophones. Voilà.
Uniquement des gens qui parlent français?
Oui, c'était un environnement francophone. Okay. Bien sûr, parce que vous avez aussi en Chine, vous avez un environnement chinois où vous voulez apprendre le chinois, vous devez y aller. Donc mon ambition a été de favoriser comme ça le parler aux étudiants dans un environnement complètement francophone où ils peuvent s'exercer.
Et vous parliez de quoi lorsque vous vous rencontriez comme ça?
Généralement, ce sont des gens, d'abord que ce sont des étrangers, ce sont des gens qui ont tous des objectifs, qui poursuivent des objectifs en Inde, qui sont dans des ambassades, qui sont dans des écoles, qui sont dans le business. Bon, les discussions souvent sont des discussions à caractère général sur la vie, sur l'évolution de choses, sur les opportunités. Alors, on permet aussi aux étudiants comme ça de s'introduire, d'échanger avec nous. Voilà, c'est comme ça.
En 2011, je vais commencer par là d'abord, avant de parler de End Francophone, parce que c'est pas grave.
Allez-y.
Vous fondez la communauté congolaise de l'Inde.
Mm-hmm. Oui, la communauté congolaise de l'Inde. Voilà, au début, je vous ai posé la question si par communauté vous faisiez mention à une structure organisée de gens qui prennent des décisions au problème, ou bien vous faisiez allusion à des foyers. Donc voilà, c'est que j'ai remarqué, j'ai parlé de discrimination primaire. Ce que j'ai remarqué, c'est que, en fin de compte, les Congolais avaient beaucoup de problèmes. Ils avaient beaucoup de problèmes. Certains tombent malades. Ils n'ont pas quelqu'un pour les assister. Et vous savez que vous êtes là dans un pays où, à 90%, ce sont des étudiants. C'est-à-dire que si la famille en RDC n'a pas assez de moyens pour supporter ses soins, ce qui se passe, c'est un décès. Non seulement c'est là, mais vous avez aussi des problèmes. Il y a des gens qui veulent trouver des maisons. Nous rencontrons aussi un problème là-bas. Vous avez des démarcheurs, des agents immobiliers, vous avez des bailleurs qui ne veulent pas donner leurs appartements aux Noirs, aux Africains. Donc, il faut montrer là une stratégie sur comment accommoder tous ces gens. Et vous avez des Congolais qui vous arrivent tous les jours, des Africains qui arrivent tous les jours. Donc, tout cela ne peut arriver que s'il y a une structure, s'il y a une coordination, s'il y a un bureau de gens.
Bien organisé,
bien assis, qui écoute le problème de gens 24 sur 24, 7 sur 7, qui les approche. Donc voilà, c'est comme ça que je vais créer la communauté congolaise de l'Inde. C'est ça. Donc voilà.
Alors, vous dites que vous aviez eu un sévère problème d'intégration, déjà vous-même.
Voilà, voilà. Déjà à mon niveau, je pense que nous avons mentionné cela au départ. Déjà à mon niveau, un sévère problème d'intégration parce que vous êtes là dans un environnement avec une langue différente, vous êtes dans un environnement avec de gens qui sont réticents à approcher l'Africain, vous êtes là devant de gens qui ne veulent pas louer leurs appartements aux Africains. Ce sont de problèmes comme ça auxquels je fais face et je n'ai jamais exclu que c'est plus de 90% de Congolais qui à l'époque faisaient face à ce genre de problèmes-là. Alors à mon niveau, je me dis, parce que là où vit de gens doit avoir une organisation, doit avoir une structure où les gens analysent des problèmes. Donc je pense qu'ils peuvent être des solutions à leurs propres problèmes. Donc c'est comme ça qu'on va faire asseoir la communauté congolaise de l'Aisne, qui va réunir les Congolais dans des meetings, dans des réunions, pour évaluer leurs problèmes, pour évaluer leurs difficultés et pour en venir avec des solutions.
Seulement les Congolais qui vivent à New Delhi dans tout le pays?
Non. Les Congolais qui vivent partout en Inde. Parce que ce qui se passe, c'est que, oui, vous avez une forte concentration de Congolais à New Delhi, mais vous avez aussi les Congolais dans d'autres états, comme à Bangalore, où vous avez plus de 800 Congolais qui y vivent. Vous avez des gens qui sont à Telangana et autres, le Punjab et autres états en Inde, bien entendu. Donc, au départ, il faut créer une structure et l'aider, il faut étendre ses branches. C'est comme ça que nous sommes partis à créer des bureaux fédéraux dans différents états aussi, qui avaient pour mission de réunir les Congolais, d'évaluer leurs problèmes, d'en venir à des solutions. Donc voilà. Et avec la bénédiction de l'ancien ambassadeur, celui qui est maintenant affecté aux États-Unis, son Excellence Monsieur l'ambassadeur François Baloumouéné. Donc voilà, si ce sont des problèmes qui dépassent notre capacité d'agissement, nous le lui présentons. C'est comme ça que nous avons fonctionné.
Mais comment vous fonctionnez? Comment la fondation fonctionne-t-elle? Grâce aux cotisations de ses membres?
Oui, bien sûr. La communauté congolaise de l'Aisne va fonctionner et continuer à fonctionner grâce aux contribuables de Congolais vivant en Inde. Je pense que lorsqu'on dit aux gens, on dit, écoutez, nous faisons face à un problème commun. Je pense que nous devons trouver une solution commune. On cotise autant pour en venir à une solution. Les gens, ils n'hésitent pas. Quand la structure, elle est assez sérieuse, quand elle est assez dédicacée à trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Donc, ce sont de cotisations des Congolais, mais également avec l'intervention de l'ambassade, avec son Excellence François Baloumouéné, avec ses interventions à répétition.
Alors, en cas de maladie, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque un étudiant éprouve des difficultés, n'a pas de moyens pour aller se faire soigner, ce sont les membres qui cotisent pour aller se faire soigner.
Lorsque je suis arrivé en Inde, je veux rencontrer une situation malheureuse. Une dame congolaise décède dans un hôpital, à Batra Hospital, dans un hôpital à New Delhi. La femme n'a pas de famille, elle vivait seule en Inde. Alors, elle décède, il faut faire un embaumement, il faut mettre à la morgue, il faut opérer une autopsie, et tout ça, ça demande de moyens. Donc voilà. Et en fin de compte, l'hôpital réalise que la femme n'a pas de famille en Inde. Alors on dit qu'il faut retrouver les Africains, il faut retrouver les Congolais. Alors c'est comme ça que le personnel de l'hôpital s'engage à rencontrer tous les Africains qui passent devant leur hôpital pour leur dire, mais vous êtes Congolais? Est-ce que vous êtes Congolais? Quand on dit oui, on dit, mais il y a un corps chez nous ici, c'est une Congolaise. Donc c'était une situation très malheureuse.
Et pourquoi ils n'ont pas contacté l'ambassade?
Vous savez, il y a un problème. La procédure, elle est là, il faut contacter l'ambassade directement, mais ce ne sont pas toutes les institutions qui sont aussi informées de cela. C'est un problème, c'est tout un problème. Donc, il faut contacter le Congolais, finalement on retrouve le Congolais, et le Congolais, il contacte leur ambassade. Mais à mon niveau, c'était une humiliation. Parce que je me dis, il ne peut pas finir comme ça, le Congolais. On doit prendre soin de lui. Bien sûr que ce sont de biens matériels. Pourquoi on ne créerait pas une structure? Il faut dire aux gens, il y a un Congolais qui a un problème, on doit aider. Et si les gens me disent, écoute Richie, nous sommes des étudiants, nous avons besoin de notre argent en retour, je vous dis, il n'y a pas de problème. J'ai signé un protocole avec la famille à Kinshasa, des remboursements, vous contribuez et puis on en vient à une solution. Donc c'était ça la procédure pour... Nous avons connu en 2013 un cas avec le défunt David Katubilondi qui était atteint d'un cancer avancé sévère à Bangalore. Voilà, donc il fallait, la famille n'avait pas finalement de moyens à Kinshasa, il fallait voir ce qu'il faut faire, et l'hôpital qui disait qu'il fallait à tout prix l'évacuer vers le pays, parce que il n'allait vivre que pendant une semaine de plus, et autres. Donc c'était une responsabilité qui nous incombait comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait encourager les Congolais, il fallait leur motiver, il fallait leur inspirer, dans un discours, leur dire, écoutez, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Donc, finalement, les Congolais ont contribué de l'argent. Nous avons réuni près de 1 400 $ qui nous a aidé à faire partir le Congolais. Et il est rentré en RDC. Et les Congolais n'ont jamais réclamé cet argent. Donc voilà. Je pense que les gens, lorsqu'ils font face à un problème commun, ils sont motivés à trouver des solutions communes.
Ritilo Tolungu, on va souffler un peu. Comment vous passez vos moments de détente?
Je suis à la maison, j'ai fait la lecture de livres, j'écris des articles. J'ai un blog où je publie mes articles et j'ai un média en France aussi, France Jeune, où j'ai publié des articles en français. Donc ça c'est comme ça que je passe ma détente. J'ai le temps de... Je suis les informations, je suis l'évolution de problèmes partout dans le monde et j'écris des avis dessus et j'ai publié. Voilà.
Et vous arrivez aussi d'écouter de la musique de temps en temps?
Oui, bien sûr, il m'arrive d'écouter de la musique de temps en temps.
Quel genre de musique? Je suis
beaucoup plus fan du reggae. Je suis beaucoup plus fan du reggae pour une très bonne raison.
Laquelle?
J'écoute beaucoup plus le reggae sud-africain parce que je trouve qu'il y a une sorte de conscience dans le reggae. Je pense que pour la plupart, ils chantent pas n'importe quoi. Ils chantent la vie, ils chantent deux problèmes. Lorsque vous suivez Alpha Blondie, lorsque vous suivez Tikenja Fakoli, lorsque vous suivez le reggae man sud-africain, ce sont beaucoup plus de problèmes centrés sur la vie.
Un titre qui vous vient à l'esprit?
Un titre qui me vient à l'esprit, Mama.
De qui?
Mama de... C'est un reggae man sud-africain très connu qui était assassiné.
Lucky Dube.
Lucky Dube, voilà.
Okay.
C'est un son que j'apprécie beaucoup parce que en fin de compte on raconte l'histoire d'un jeune qui appelle sa maman, qui lui dit: maman, écoute, je vais me marier. Et maman qui lui dit: est-ce que tu as pris le temps de comprendre cette dame, cette demoiselle? Alors il dit: écoutez, c'est la meilleure des femmes, parce que vous savez que les hommes, ce sont des excès. Quand on veut quelque chose, on le veut. Et en fin de compte, lorsqu'il arrive dans le mariage, ça tourne mal, il faut un divorce. Alors l'homme se pose la question, il s'est dit: je suis malheureux, je ne sais pas comment il faut appeler maman pour dire à maman que ça n'a pas marché. Donc voilà, je pense que la leçon à l'intérieur, c'est les parents, ils peuvent jamais vouloir quelque chose de mal pour son propre enfant. Quelque part, il faut écouter et puis il faut analyser.
C'est aussi un conseil que vous donnez à tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment. Alors Hippolyte, tu vas nous balancer la chanson Maman de Lucky Dube. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin, vous pouvez découvrir aujourd'hui Richie Lotulungu Sombola. Sombola, voilà. C'est lui que nous vous présentons aujourd'hui. Il est fondateur de la communauté congolaise de l'Inde, fondateur de l'Inde francophone, fondateur d'Action des jeunes capables. Il est l'initiateur de plusieurs associations. Hein. Richie, vous êtes aussi initiateur du programme d'aide et d'assistance humanitaire
que
vous avez lancé en 2013.
Voilà. Alors, pourquoi on lance CCIA? J'ai justement parlé au départ d'un problème d'intégration, d'un problème, et j'ai mentionné aussi que vous avez des gens qui ont passé des années et n'ont jamais connu des Africains. Alors, je pense ici, à mon niveau, je me disais qu'il faut créer des moyens de connexion. Il faut créer des moyens d'intégration. Et j'ai toujours dit à mes compatriotes en Inde que on ne traite pas la violence par la violence. Je pense que nous devons chercher des moyens pacifiques, intellectuels, de communiquer un message. Parce que ce qui vous arrive finalement, à part la petite discrimination primaire que vous faites face, vous avez les médias qui, à chaque fois, vous parlent des Africains qui sont dans la drogue, qui sont dans ceci. Vous n'aurez trouvé aucun message positif sur les Africains. Alors, toutes ces choses ont un impact. L'impact, c'est que, avec la puissance de médias, ça travaille sur le tête des gens, des Indiens ordinaires. Ils pensent que l'Africain, c'est un petit monstre. L'Africain, c'est quelqu'un dont il faut traiter avec beaucoup de précautions quand il y a un problème. Parce que le principe, il est clair. Si je ne t'attaque pas le premier, tu m'attaques le premier. Alors, comment je cherche à éradiquer cette image dans la tête des Indiens? Je veux faire parvenir à l'Indien le sens humain de l'Africain. Je vais dire à l'Indien que l'Africain, c'est quelqu'un qui aide. C'est quelqu'un qui vient en aide. Voilà. Alors, c'est comme ça que nous allons créer le programme CCI Aid, qui continue jusqu'à aujourd'hui, supporté par le Congolais vivant en Inde. Qu'est-ce que nous faisons? Nous cotisons. Nous faisons des collectes chaque fin du mois. On passe dans les maisons des Congolais. Quelqu'un qui a une chemise, qui n'utilise plus, on le prend. Quelqu'un qui a le riz, qui pense ne plus utiliser, on le récupère. Et on envoie comme ça au lavage les vêtements, tous les vêtements que nous cotisons, on envoie au lavage, et avec le peu de moyens que nous avons, on achète des denrées alimentaires, on visite des ONG qui regroupent des pauvres et des personnes vulnérables, et on fait des actions. Et ça a été un très grand succès, parce qu'au final, vous venez en aide aux gens qui vous découvrent et qui disent, oh, écoutez, ils sont pas tous le même. Écoutez, ce sont des Africains qui viennent. Et avec l'aide de certains médias, nous avons été en mesure de mettre ça sur certains médias aussi pour justement véhiculer cette image humaine du côté africain. Et c'est aussi dans la même longueur d'onde que nous avons lancé la mission des radios Outlook Africa.
Fondateur de Outlook Africa.
Oui. C'est comme ça que nous allons lancer l'émission des radios Outlook Africa. Parce que ce que je constate à l'époque, c'est qu'il n'y a pas un programme dans la télévision ni dans la radio indienne totalement dédié à l'Afrique. Et je pense que c'est un problème. Ce que moi je veux apprendre à l'Indien comment vivre avec l'Africain. Je veux apprendre à l'Indien quelle est la culture de l'Africain. Je veux faire parler les Indiens qui vivent en RDC parce qu'ils vivent une belle vie. Bien sûr qu'ils ont des contraintes aussi. Je veux faire parler ce genre. Je veux que ces messages passent en Inde, que les gens l'écoutent. Ça transforme le masse, ça transforme la société. Donc c'est comme ça que nous allons lancer le programme Outlook Africa. Et au mois de décembre 2014, le programme a été nominé dans le World Radio Community Award comme le meilleur programme éducatif en Inde. Spécialement une émission que nous avons tournée à l'époque sur Ebola. Parce que lorsque le virus faisait le ravage en Afrique, vous avez des gens qui avaient très peur, vous avez des barricades à l'aéroport et tout. Donc il fallait informer aux gens c'est quoi Ebola au juste, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas...
Et le programme était en français ou bien...
Le programme est totalement en anglais. C'est un programme en anglais. Mm-hmm. Voilà. Et quelquefois aussi, nous faisons des programmes dans les langues locales en hindi avec des indiennes. C'est-à-dire, les présentateurs de l'émission étaient des Africains, des Africaines, mais lorsque nous avons un programme, on voit un message spécifique, on utilise aussi la communauté indienne pour faire la traduction, et voilà.
Vous avez appris quelques langues locales indiennes?
Oui, bien sûr. J'ai appris le hindi, qui est une très belle langue, et j'ai toujours encouragé les Africains à apprendre les langues locales au niveau de l'Inde. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des prévisions qu'en 2030, l'Inde sera le pays le plus peuplé de la planète. C'est-à-dire que certaines de langues très populaires comme l'hindi absolument deviendront de langues internationales. Pourquoi nous parlons chinois aujourd'hui? Parce que la Chine, c'est le pays le plus peuplé au monde. Ils sont partout dans le monde. Nous sommes contraints d'apprendre. Et je pense que d'ici à 15 à 30 ans, le même effet va se produire avec l'Inde. Donc nous avons toujours encouragé les gens d'apprendre les langues locales. Et je suis très fier de mes compatriotes en Inde parce que vous avez des gens qui vous parlent même plus que M. Richie.
Alors Richie, quel conseil vous pouvez donner à tous ces jeunes qui ont envie d'aller étudier en Inde, mais à cause de tout ce qu'ils entendent par rapport à la discrimination, ils ont peur de se lancer. Quel conseil vous pouvez leur donner? Est-ce qu'il faut y aller?
Non, je pense que
faire ses études sur place.
Oui, bien sûr. Si le moyen existe, il faut y aller. Je pense qu'il faut, dans la vie, il faut rester le plus objectif possible. L'Inde, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités. Nous ne sommes pas l'unique communauté africaine en Inde. Vous avez les Nigériens, vous avez le Togolais et d'autres communautés. Vous avez là face à vous un pays qui vous aide à devenir des grands informaticiens, qui vous aide à faire de grandes études à un coût moins cher. Et je pense que la question pour chaque Congolais aujourd'hui, j'ai toujours dit à mes compatriotes en Inde, c'est de se dire, de se poser la question, quelle est la demande actuelle de la RDC? Qu'est-ce que la RDC a besoin pour se développer? Et moi, je trouve toutes ces opportunités en Inde, et ça coûte très moins cher. Alors, moi, j'encourage les gens à partir. Aujourd'hui, la situation n'est pas restée la même. Nous avons assez innové, nous avons mis en marche des programmes sociaux qui bénéficient aux Indiens et aux Africains, qui bénéficient aux Congolais aussi, qui ont changé l'image des Africains. Vous savez, je me rappelle en 2013, il y a eu meurtre d'un Nigérian dans la ville de Goa en Inde, et j'ai reçu l'appel d'un média international qui voulait que je puisse intervenir pour les communautés africaines. Je suis intervenu comme ça, et dans le programme il y avait un ministre indien qui était présent, et nous avons eu à beaucoup échanger, et le ministre a dit vous savez, avec tout ce que vous faites là, les choses sont en train de changer. Bien sûr que ça prendra du temps, mais si vous continuez à le faire, les choses changeront. Donc moi, j'invite plutôt le Congolais à joindre l'effort. Parce que je me dis que l'Inde et la RDC ont un avenir lié. On peut être partenaire dans beaucoup de choses. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin d'investisseurs. Et ils sont en masse en Inde. C'est que moi je veux des gens qui peuvent partir en Inde, qui peuvent travailler sur l'image de la RDC. Comme vous savez, je veux vous informer, je pense que vous êtes, je ne sais pas si vous êtes informé de cela. Nous avons en 2015 lancé un programme Congo Global Initiative, CGI, qui consistait à faire la promotion de l'investissement en RDC, à faire la promotion du pays en Inde. Parce qu'en fin de compte, en tant que Congolais, ce qu'on veut, on veut que le pays soit respecté, on veut que notre passeport soit respecté. Nous avons produit une publicité d'une minute sur la RDC qui est passée dans les télévisions en Inde et qui continue à passer. Donc, moi, j'invite les gens à aller en Inde, à faire de très grandes études en Inde, à rester objectif. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas être aussi plaintif que ça. Lorsque ça vous présente des opportunités, vous y allez, comme ça. Donc, je n'ai pas, en arrivant en Inde, besoin de savoir ces gens, ils vivent comment, est-ce qu'ils sont ceci, est-ce qu'ils sont cela, pourquoi la ville, elle est sale, pourquoi elle est ceci. Je suis là pour un objectif.
Maintenant que vous êtes en RDC, vous faites quoi, Richie?
Je suis en RDC, ça va faire 4 ans et demi que j'ai quitté le pays. Lorsque vous arrivez, vous retrouvez, pas totalement étranger, mais vous dites qu'il y a des choses qui vous manquent. Alors vous avez besoin d'une sorte de réintégration minime. Vous avez besoin d'une sorte de réintégration minime, et vous avez aussi besoin de vous définir. Donc je suis là, je suis au service de la population, je suis au service de la République, je suis en train de chercher à me redéfinir, j'analyse, j'observe, je fais les études sur place, et lorsque le moment sera venu, je me lancerai dans quelque chose pour le bénéfice, bien sûr, de Congolais.
Alors, mais qui est à la tête maintenant de la communauté congolaise de l'Inde? Vous avez organisé des élections?
Voilà, la communauté congolaise de l'Inde, c'est une communauté très organisée, et nous avons reçu au mois de mai une communication du ministère en charge du Congrès de l'étranger qui a apprécié la communauté et qui a dit que c'était la communauté la mieux organisée de l'ensemble de la diaspora congolaise. C'est une communauté organisée. Nous avons une structure indépendante, le BESI, les bureaux électoraux centraux indépendants qui organisent les élections chaque 2 ans, qui organise ces élections. Donc, avant que je revienne en RDC, il y a eu élection, et vous avez aujourd'hui Madame Milka Kanika qui est en tête de la communauté, qui a remporté les élections. Et les élections sont justement organisées dans toute l'étendue du pays. Voilà.
Ça se passe comme Richie, ça. Richie, c'était un plaisir de vous recevoir dans mon grand témoin. Vous avez peut-être un dernier mot?
Ah, écoutez, je suis très heureux d'être dans votre émission. Vous savez que c'est une émission que nous suivons depuis l'étranger, que nous apprécions beaucoup. Et je pense que le plaisir est le mien aujourd'hui d'être dans cette émission. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Richie, et bonne chance pour la suite.
Merci. Vous serez tenu informé.
Merci. De retour, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Richie Lotulungu Sombola. Il est jeune Congolais, très dynamique, initiateur de plusieurs associations et fondations. Merci à Hippolyte Kapanga qui est à la prise de son, micro Kéline Kouté. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon site de programme sur la fréquence de la paix.